Chapitre 17. Grand dîner à trois services. Dans la même matinée où nous venons de voir Rebecca vaquer si discrètement à ses affaires, Lord Steyne, qui d'ordinaire ne voyait les dames de la maison qu'au jour de réception, ou lorsqu'il les rencontrait par hasard dans la cour, Lord Steyne, disons-nous, se présenta chez elles comme elles prenaient leur thé avec les enfants, et combattit vaillamment pour la cause de Rebecca. « Milady Steyne, dit-il, montrez-moi votre liste d'invitations à dîner pour vendredi. »« C'est fort bien. Vous allez maintenant, s'il vous plaît, m'écrire un billet pour le colonel et Mrs. Crawley. »« Blanche, écrivez, dit Lady Steyne, toute suffoquée. »« Lady Gaunt, écrivez. »« Non, jamais je n'écrirai à cette femme, dit Lady Gaunt, grande et orgueilleuse personne, qui, après avoir levé les yeux au ciel, les rabaissa ensuite vers le parquet. » Il était en effet difficile de soutenir le regard de Lord Steyne lorsqu'il lui arrivait de rencontrer de la résistance quelque part. « Qu'on emmène les enfants, » dit-il, en tirant le cordon de la sonnette. Les pauvres enfants avaient une telle peur de lui qu'ils s'empressèrent d'obtempérer à cet ordre. Leur mère aussi se disposait à les suivre. « Vous pouvez rester, » lui dit alors l'inexorable despote. « Milady Steyne, » continua-t-il, « voulez-vous avoir l'obligeance d'aller vous mettre à votre bureau ?» et d'écrire cette lettre d'invitation pour vendredi. Pour moi, je n'assisterai point à ce dîner, dit Lady Gaunt. Je retournerai chez mes parents. Je ne demande pas mieux, pourvu que vous n'en reveniez plus. Vous trouverez, du reste, à Bear Acres, une société fort aimable, dans celle des huissiers et des recors, et de la sorte, je me verrai débarrassé d'un seul coup, et des aumônes que je suis obligé de faire à vos parents, et de vos grands airs tragiques. C'est bien à vous, en vérité, à prendre ici le ton du commandement. À vous, aussi pauvre d'esprit que vous l'êtes d'argent. On vous a pris pour faire des enfants, et vous n'êtes pas même bonne à cela. Gaunt a de vous par-dessus la tête. Il n'est personne ici, excepté vous, qui ne désire vous voir dans l'autre monde. Si vous veniez à trépasser, Gaunt ne serait pas long avant d'en prendre une autre. Plût au ciel que j'eusse cessé de vivre, répondit Milady, les yeux troublés à la fois par les larmes et la colère. J'admire, en vérité, ces scrupules de vertu et de pudeur, alors que ma femme, dont tout le monde connaît l'existence immaculée, n'élève aucune objection contre la présentation de ma jeune protégée, Mrs. Crawley. Milady Steyne peut vous le dire. La plus honnête femme a souvent les apparences contre elle, et la calomnie se charge du reste. C'est toujours à l'innocence qu'elle s'attaque. Du reste, si vous le désirez, madame, je pourrais retrouver quelques petites anecdotes sur Milady Bearacres qui vous prouveraient que vous auriez mauvaise grâce à y regarder de trop près. Frappez-moi plutôt, si tel est votre bon plaisir, monsieur. Les coups me seront moins sensibles que de telles injures, reprit Lady Gaunt. Milord Steyne trouvait une satisfaction sans égale toutes les fois qu'il pouvait trouver l'occasion de torturer ainsi sa femme et sa fille. « Ma toute belle, reprit-il, je suis gentilhomme, et à ce titre, je ne porterai jamais la main sur une femme, si ce n'est toutefois pour la caresser. Je voulais seulement redresser certains petits travers de votre nature. Mesdames, vous êtes trop orgueilleuses et péchez singulièrement contre l'humilité chrétienne. Qu'est-ce que signifient tous ces grands airs? De la douceur, de la modestie, s'il vous plaît, mes chères brebis. Demandez à Lady Steyne, elle peut vous le dire. » Cette aimable Mrs. Crawley, si calomniée de toutes parts, est une femme parfaitement innocente, un modèle de vertu, entendez-vous? Son mari n'a peut-être pas une fort bonne réputation. Mais, après tout, celle des Bearacres vaut-elle donc mieux? Que direz-vous d'un homme qui ne paye jamais quand il perd, qui vous a dépouillé de l'héritage que vous deviez avoir, et qui vous a laissé sans le sou et à ma charge? La naissance de Mrs. Crawley n'est pas brillante, mais il ne faudrait peut-être pas remonter bien loin pour trouver la nuit des temps dans laquelle se perdent les ancêtres de certaines personnes. « Mais, milord, s'écria Lady George, la fortune que j'ai apportée dans votre famille. Eh bien, reprit le marquis avec un regard hautain et dur, c'est le prix auquel vous avez acheté une succession éventuelle. Que Gaunt vienne à mourir et votre mari héritera de tous ses droits, vos enfants après lui, et qui sait où cela peut s'arrêter. » Ainsi donc, mesdames, ayez pour votre usage de la vertu, de la fierté, tant qu'il vous plaira. Mais je vous prie, faites-moi grâce de ces airs-là. Quant à la réputation de Mrs. Crawley, je ne veux pas me faire, à moi, à cette irréprochable personne, l'injure de laisser supposer qu'il y a lieu de la défendre. Vous aurez donc l'obligeance de lui faire l'accueil le plus cordial, ainsi qu'à toutes les personnes que je trouve à propos d'amener dans l'hôtel. Et qu'est-ce donc que cet hôtel ? Fit-il avec un rire satanique, accompagné d'un blasphème. Quel en est le maître ? Et qui trouve-t-on donc ? Ce temple de la pudeur n'est-il pas à moi ? Et s'il me prenait fantaisie d'y amener toute la population de Newgate ou de Bedlam, je vous jure, entendez-vous, qu'il faudrait vous résigner à lui faire bon accueil. Après cette rigoureuse semonce, comme Lord Steyne était dans l'habitude d'en faire pour remettre son harem au pas, suivant son expression, lorsqu'il manifestait quelques velléités d'insubordination, les pauvres femmes, obligées de courber la tête, n'eurent plus qu'à se ranger au parti de l'obéissance. Lady Gaunt écrivit l'invitation qu'exigeait d'elle le noble lord. Puis, avec sa belle-mère, et sous le poids de la plus profonde humiliation, elles allèrent déposer leurs cartes chez Mrs. Rawdon, ce qui causa un vif plaisir à l'innocente créature. Nous pourrions citer des familles de Londres qui auraient sacrifié une année de leurs revenus pour jouir d'une si haute faveur. Mrs. Frederick Bullock, par exemple, se serait bien traînée sur les genoux de Mayfair à Lombard Street si elle eût été sûre d'entendre sortir de la bouche de Lady Gaunt et de Lady Steyne ces magiques paroles « Nous vous invitons pour vendredi prochain ». En effet, ce n'était point une de ces cohues, de ces grands bals de Gaunt House où la foule se mêle et se confond, mais c'était une petite réunion bien intime, bien mystérieuse, où les privilégiés ont l'honneur d'être admis, honneur dont ils doivent se féliciter tout le reste de leur vie. Lady Gaunt avait droit, par sa beauté, ses dédains, sa chasteté, à une place élevée parmi les plus vains de ce monde. L'exquise courtoisie avec laquelle Lord Steyne la traitait en public charmait tous ceux qui en étaient témoins, et les plus difficiles étaient obligés de reconnaître que l'illustre lord était un gentilhomme accompli et avait le cœur bien placé. Les dames de Gaunt House demandèrent du renfort à Lady Bareacres contre l'ennemi commun. Lady Gaunt envoya chercher sa mère par une de ses voitures, car tous les équipages de la noble comtesse avaient été saisis par les baillis. Ses bijoux, sa garde-robe, était devenu la proie des impitoyables enfants d'Israël. Le château de Bareacres était en leur pouvoir, avec ses peintures de prix, son splendide ameublement et tous les magnifiques chefs-d'œuvre de Van Dyck, de Reynolds, de Lawrence. La nymphe dansante de Canova, faite à la ressemblance de Lady Bareacres, mais de Lady Bareacres dans tout l'éclat de la jeunesse et de la beauté, tandis que maintenant, il ne restait plus d'elle qu'une pauvre vieille édentée et chauve. La robe fanée après les jours de fête. Son seigneur et maître, peint jadis par Lawrence, vers la même époque, en uniforme des hussards de Thistlewood, avec un grand sabre dans les jambes et le château de Bareacres dans le lointain, n'était plus maintenant qu'un pauvre diable râpé sur toutes les coutures et cachant sous une perruque presque aussi dépouillée que sa tête les flétrissures des années. Le matin, il se faufilait dans quelque mauvaise taverne, et le soir, il allait tout seul prendre son dîner au club. Il n'était plus très empressé de dîner chez Lord Steyne. Autrefois, rival heureux de ce dernier dans la carrière du plaisir, il voyait désormais les rôles intervertis. Le petit Lord Gaunt de 1785 était maintenant un gros personnage, tandis que Bareacres n'offrait plus que le triste spectacle de sa ruine et de sa décrépitude. Il devait trop d'argent à Lord Steyne pour oser se présenter devant son vieux camarade, et lorsque celui-ci se sentait en verve de belle humeur, il ne manquait jamais de demander malicieusement à Lady Gaunt pourquoi son père ne venait plus la voir. « Voici 4 mois qu'il n'a mis les pieds ici, » lui disait Lord Steyne. « Je puis compter par mon livre de dépenses chacune des visites de Bareacres. » Il s'est bien chargé de faire sortir tout l'argent que l'autre beau-père a apporté dans la maison. Le narrateur du présent récit n'en a pas bien long à dire sur les illustres personnages que Becky eut l'honneur de rencontrer à son entrée dans la haute société. Nous citerons cependant le prince de Peterwaradin et sa femme. Son Excellence a la taille prise dans une ceinture étroitement serrée. Sur sa poitrine, bien dessinée par l'uniforme militaire, étincelle une plaque chargée de pierreries. Le boyard porte autour du cou le collier rouge de la toison d'or et possède d'innombrables troupeaux. « Regardez-le bien, » dit Rebecca à l'oreille de Lord Steyne. « Le chef de sa race devait être un mouton. » En effet, son air solennel, sa démarche mesurée, sa figure blafarde et son collier donnaient à son excellence tout l'air d'un vénérable mouton à clochette. Nous citerons encore M. John Paul Jefferson Jones, attaché à l'ambassade américaine et correspondant du démagogue de New York. Espérant se faire bien venir des maîtres de la maison, il profita d'un moment de silence pendant le dîner pour demander si son cher ami George Gaunt se plaisait toujours beaucoup au Brésil. Toutes les fois que le colonel se trouvait, comme en cette circonstance, au milieu d'une société délicate et choisie, il se mettait à rougir ni plus ni moins qu'un garçon de 16 ans au milieu des compagnes de sa sœur. L'honnête Rodon manquait complètement de cette habitude du monde que l'on n'acquiert que dans la société des femmes. Au club, à la caserne, il n'avait pas besoin de se gêner. Là, il entrait, sortait, fumait et jouait au billard tout à son aise. Ce n'est pas que dans son temps aussi, il ne se soit trouvé en rapport avec le beau sexe, mais il y avait déjà longtemps de cela, et les habitudes que l'on peut contracter dans les boudoirs en question ne préparent nullement à celles qu'il faut avoir pour faire bonne contenance dans un salon. Le colonel était alors dans ses 45 ans. En cherchant bien, sa mémoire pouvait lui fournir le souvenir d'une demi-douzaine de femmes qu'il avait connues avant l'incomparable créature à laquelle il s'était uni par le lien de l'hyménée. Mais à l'exception de cette dernière et de son excellente belle-sœur Lady Jane, dont l'aimable caractère l'avait séduit et entraîné, le colonel était au supplice auprès de toutes les autres femmes. À Gaunt House, il ne desserra pas les dents de tout le dîner que pour faire remarquer que le temps était à l'orage. Becky avait bien songé à le laisser à la maison, mais les convenances exigeaient qu'à son entrée dans le grand monde, son mari fût à ses côtés, comme le bouclier et le rempart de sa vertu et de son innocence. Au moment où l'on annonçait Mrs. Crawley et son mari, Lord Steyne était allé à sa rencontre, lui avait fait un grand salut et l'avait présenté à Lady Steyne et à ses belles-filles. Ces dernières lui avaient fait une révérence des plus profondes et des plus cérémonieuses. Quant à la mère, elle avait tendu la main à la nouvelle arrivée, mais cette main était aussi glaciale que le marbre d'un tombeau. Becky la prit néanmoins avec un air d'humilité et de reconnaissance, et avec un salut qui aurait pu faire honneur au meilleur des maîtres de danse, elle s'inclina presque jusqu'à terre, puis elle rappela avec une présence d'esprit admirable que Milord Steyne avait été autrefois l'ami et le protecteur de son père, et que dès son enfance, elle avait été élevée à révérer et à bénir le nom de cette famille. En effet, Lord Steyne pouvait bien avoir acheté 2 tableaux au malheureux Champ, et l'orpheline avait l'âme trop sensible à la reconnaissance pour oublier jamais un pareil bienfait. Il fallut aussi renouveler connaissance avec Lady Bareacres. La femme du colonel lui fit une profonde révérence, à laquelle l'orgueilleuse comtesse ne répondit que par une froideur pleine de dédain. « Il y a bientôt 10 ans, lui dit Becky, en femme qui ne sait rien perdre de ses avantages, que j'ai eu l'honneur de faire à Bruxelles la connaissance de votre seigneurie. C'était, je crois, au bal de la duchesse de Richemont, la veille de la bataille. J'ai vu votre seigneurie ailleurs encore, c'était avec Lady Blanche, sous la porte cochère de l'hôtel, où vous vous étiez mise dans votre voiture en attendant des chevaux. J'espère que vous avez sauvé tous vos diamants. » Tout le monde se regarda. Ces fameux diamants avaient été saisis par les créanciers, à ce qu'il paraît, et Becky probablement n'en savait rien. Rodon Crawley se retira dans l'embrasure d'une fenêtre avec Lord Southdown, et celui-ci ne tarda pas à pouffer de rire au récit que lui fit Rodon de Lady Bareacres trépignant dans sa voiture et épuisant les promesses et les prières auprès de Mrs. Crawley pour en obtenir des chevaux. Maintenant, pensa Becky, cette femme n'est plus à craindre pour moi. Lady Bareacres échangea avec sa fille des regards où se mêlaient la terreur et la colère, et se dirigea vers une table où elle se mit à regarder un album dont elle tourna les feuillets avec la plus grande rapidité. Lorsque le noble habitant des bords du Danube fut arrivé, on se mit à parler français. Lady Berwick ainsi que les jeunes dames virent, à leur grande mortification, que Mrs. Crawley possédait cette langue bien mieux qu'elle, et la parlait avec bien plus de grâce et de facilité. Becky avait connu, en 1816 et 1817, des magnats hongrois qui faisaient partie de l'armée alliée. Elle s'enquit de ses amis d'autrefois avec le plus touchant intérêt. Le noble étranger s'imagina de suite que c'était quelque femme d'une haute distinction. En passant du salon à la salle à manger, le prince et la princesse demandèrent à Lord Steyne et à la marquise le nom de cette petite dame qui parlait si bien le français. Ces quatre personnes conduisant la tête de la colonne, toute la société se rendit dans la salle du banquet. En tête de ce chapitre, nous avons annoncé un dîner à trois services. Dans le désir qu'il soit tout à fait selon le goût du lecteur, nous laisserons à son imagination le soin d'en composer le menu. Becky avait bien compris que pour elle, le moment critique serait celui où les dames se trouveraient seules après dîner, car alors il lui faudrait soutenir tout l'effort du combat. La position de la petite femme, en effet, devenait alors très difficile, et elle put reconnaître combien Lord Steyne avait eu raison en lui disant que la société de ces femmes d'un rang supérieur au sien ne lui offrirait rien de bien agréable. « Je ne connais rien de plus impitoyable qu'une femme dans ses haines à l'égard d'une autre personne de son sexe. » Becky allait l'éprouver. Lorsque la pauvre petite Becky se trouva toute seule en tête-à-tête avec ces grandes dames, elle voulut s'approcher de la cheminée et rejoindre le reste de la société. Mais ces dames battirent aussitôt en retraite et allèrent prendre position autour d'une table couverte de gravures. Becky ayant dirigé ses pas de ce côté, elles se replièrent vers la cheminée. Elle voulut parler à l'un des enfants et se livrer à un de ces transports de tendresse, comme il lui en prenait subitement de temps à autre, et seulement en public. La mère rappela au plus vite son enfant. Enfin, on traita l'intruse avec tant de dureté que Lady Steyne la prit en compassion et alla causer avec la pauvre rebutée. « Lord Steyne, lui dit-elle, tandis qu'une rougeur passagère colorait la pâleur de ses joues, « Lord Steyne m'a dit que vous chantez à ravir. Voudriez-vous bien nous faire entendre votre talent ?»« Je ne désirais que l'occasion de pouvoir vous être agréable, soit à vous, soit à Milord Steyne, » dit Rebecca avec une sincère reconnaissance. Et en même temps, elle s'assit au piano et se mit à chanter. Elle joua les mélodies religieuses de Mozart que Lady Steyne affectionnait particulièrement, et avec une telle douceur et un sentiment si vif de l'harmonie que cette dame, s'approchant du piano, vint s'asseoir à côté d'elle et que de grosses larmes lui coulèrent des yeux en l'écoutant. Il est vrai qu'en compensation, à l'autre extrémité de la pièce, on ne se gênait pas pour rire tout haut et causer d'une manière bruyante. Mais Lady Steyne n'y prenait pas garde. Sa pensée l'emportait ailleurs. Elle la ramenait au jour de son enfance et la faisait remonter à travers 40 années de douleur et d'isolement, au temps où elle était encore dans son couvent, quand l'orgue de la chapelle faisait retentir les mêmes notes à son oreille. C'était l'organiste, c'était la sœur de la communauté qu'elle aimait le plus, qui lui avait appris ses airs dans des jours de félicité trop vite écoulés. Pendant une heure, elle avait pu se croire au temps de sa jeunesse. Pendant une heure, elle avait reconquis le bonheur si pur et si doux du premier âge. Elle sortit de ce rêve en sursaut, lorsque les deux battants de la porte s'étant ouverts, elle entendit les éclats de rire de Lord Steyne et la bruyante gaieté des hommes qui revenaient au salon. D'un regard, le maître de la maison devina ce qui s'était passé en son absence et pour la première fois de sa vie, éprouva un mouvement de bienveillance pour sa femme. Il alla lui parler et l'appela par son nom de baptême, ce qui fit de nouveau rougir cette pâle et triste figure. « Ma femme vient de m'apprendre que vous avez chanté comme un ange, » dit Milord Steyne à Becky. « Mais il existe deux espèces d'anges, et chacun a, dit-on, sa manière particulière de charmer les cœurs et les esprits. » Le reste de la soirée fut un véritable triomphe pour Becky. Elle chanta à ravir, et les hommes firent cercle autour du piano. Ses ennemis furent laissés dans leur coin. M. Paul Jefferson s'approcha seul de Lady Gaunt, et, pour lui être agréable, ne trouva rien de mieux à lui dire, sinon que son amie avait une voix ravissante et qu'elle possédait un talent unique. Chapitre 18. Le cœur d'une mère. La muse anonyme qui nous dicte ces récits va quitter maintenant les hautes régions dans lesquelles elle vient de s'élever pour pénétrer sous l'humble toit que John Sedley occupe à Brompton et décrire des événements qui montrent sous un autre jour les misères de la nature humaine. Là aussi se sont glissés les soucis, la défiance, le désespoir. Mrs. Clapp, au fond de sa cuisine, boude en cachette son mari qui ne sait pas se faire payer ses loyers et excite ce brave homme à user de toute la rigueur de ses droits contre son ancien ami et patron. Mrs. Sedley ne va plus visiter sa propriétaire dans cette retraite. C'est qu'aussi elle n'est plus en position de patronner Mrs. Clapp. D'ailleurs, comment montrer de la condescendance envers une femme à qui l'on doit environ 40 livres et qui vous rappelle sans cesse vos dettes? La servante irlandaise est toujours dans les mêmes dispositions de respect et de prévenance, mais Mrs. Sedley ne veut plus voir en elle qu'insolence et ingratitude. Et comme le voleur qui croit voir à chaque coin de rue un agent de la force publique, elle s'imagine trouver dans les moindres gestes et les moindres paroles de cette jeune fille des intentions railleuses et satiriques provoquées par sa triste situation de fortune. Miss Clapp, devenue avec le temps une grande et belle fille, était, au dire de cette vieille femme aigrie par le malheur, une petite effrontée d'une impudence sans bornes. Mrs. Sedley ne pouvait comprendre cette tendresse qu'avait pour elle Amelia et les motifs qui l'engageaient à s'enfermer avec elle dans sa chambre et la prendre pour la promenade. Tel était l'effet de la pauvreté sur le caractère de cette femme autrefois si douce et si égale dans son humeur. Elle ne savait aucun gré à Amelia des égards dont sa fille ne cessait de l'entourer, et elle n'y répondait que par des brusqueries et des rebuffades. Le grand reproche qu'elle lui faisait, c'était son amour, son orgueil maternel pour son fils, qui lui faisait négliger les auteurs de ses jours. La maison, du reste, avait un aspect morne et sombre, depuis que Joss n'envoyait plus à ses parents la pension qu'il leur faisait autrefois. Déjà même l'indigence et la faim commençaient à s'y faire sentir. En présence de cette vie de privation continuelle, Amelia se creuse la cervelle pour découvrir quelques moyens d'adoucir tant de souffrances et de douleurs. Donnera-t-elle des leçons? Se mettra-t-elle à faire de l'enluminage ou de la lingerie? Mais qu'y a-t-il dans le travail d'une femme? C'est tout au plus si, au bout du jour, elle peut arriver à gagner 4 sous. Enfin, elle se décide. Elle achète 2 cartons de Bristol, tout encadrés de dorures. Sur l'un, elle dessine un berger en veste rouge, à la face rose et souriante, qui se détache sur un paysage à la mine de plomb. Sur l'autre carton, elle fait une bergère qui traverse un petit pont. Son chien la suit par derrière. Elle ombre le tout de son mieux. Puis alors elle retourne chez le marchand qui lui a vendu le papier, espérant qu'elle le trouvera plus disposé qu'un autre à lui racheter les peintures qu'elle vient d'y faire. Mais à la vue de ses dessins, le marchand a grand-peine à comprimer un sourire dédaigneux qu'attire sur ses lèvres ses ébauches informes d'une main inexpérimentée. Du coin de l'œil, il regarde la pauvre veuve qui attend dans la boutique, puis bientôt remet les cartons dans leur enveloppe de papier gris et les rend à celle qui les lui a apportés, au grand étonnement de Miss Clapp, qui, de sa vie, n'a jamais vu de pareil chef-d'œuvre, et qui croyait bien qu'on allait offrir au moins 1 guinée de chaque dessin. Elles font ainsi toutes les boutiques de Londres, et à chaque visite, c'est une nouvelle déception, un nouveau serrement de cœur. En général, on les éconduit avec politesse. Cependant, dans quelques maisons, on les repousse avec brutalité. Voilà donc encore une dépense inutile, une dépense dont l'argent est autant de prix sur le nécessaire. Les dessins restent à Miss Clapp, qui en orne sa chambre et les tient toujours pour des merveilles. Après de grands efforts de réflexion, Amelia parvient enfin à tracer de sa plus jolie écriture la réclame suivante. Une dame sachant l'anglais, le français, la géographie, l'histoire et la musique désirerait donner des leçons à de jeunes demoiselles. S'adresser dans la maison de M. Brown. Elle remet cette affiche au marchand de couleurs qui lui avait vendu son papier de Bristol et qui consent à la mettre en évidence dans sa boutique. La poussière et les mouches ont bien vite jauni le papier. Amelia, dans l'espoir d'une bonne nouvelle, passe souvent devant la porte, mais le marchand ne lui fait aucun signe d'entrée, et lorsqu'elle va lui faire de petites emplettes, il n'a jamais rien à lui dire. Faible et sensible créature, tu n'es point faite pour le tumulte et les luttes de ce monde de vanité. Chaque jour, Amélia devient plus soucieuse et plus triste. Ses yeux inquiets ne quittent plus son enfant, qui ne sait comment interpréter la singulière expression des regards de sa mère. Elle se lève au milieu de la nuit et se glisse furtivement dans la chambre de Georgie pour voir si on ne le lui a point enlevé. C'est à peine si elle ferme l'œil. Une pensée unique l'obsède et l'épouvante. Les longues nuits se passent pour elle dans les larmes et les prières. Elle s'efforce d'écarter la pensée qui l'accable et la torture, à savoir qu'il lui faut se séparer de son enfant. Qu'elle seule fait obstacle à sa fortune et à son bonheur. Mais un pareil sacrifice est au-dessus de ses forces, quant à présent du moins. Elle verra plus tard. Si cette perspective est déjà si pénible, que sera la réalité? Une pensée assiège bien son esprit, une pensée qui la bouleverse et la fait rougir. Elle pourrait bien abandonner son revenu à ses parents, en épousant le ministre qui l'attend toujours, se retirer chez lui avec son fils. Mais son amour et un sentiment de pudeur s'opposent à ce sacrifice. Elle repousse cette idée comme un sacrilège. Cette âme si pure et si candide voit presque un crime dans cette pénible pensée. Ce combat intérieur que nous venons de décrire en quelques mots livra pendant plusieurs semaines l'âme d'Amélia au plus cruel déchirement. Pendant tout ce temps, elle étouffa ses douleurs en elle-même, car à qui aurait-elle pu les confier? Bien qu'elle se refusât de toutes ses forces à reconnaître la nécessité de céder, cependant cet ennemi contre lequel elle soutenait une lutte désespérée gagnait chaque jour du terrain et faisait sans cesse de nouveaux progrès. Cette triste vérité qui pressait son cœur en silence finissait par y jeter de profondes racines. En songeant à la pauvreté et à la misère qui les environnait déjà de toutes parts, aux besoins et à l'humiliation auxquels elle livrait ses parents, elle se convainquait de la faiblesse des arguments par lesquels elle aurait voulu se persuader encore qu'elle pouvait garder auprès d'elle le cher trésor de son amour. Sous le coup de ces terribles épreuves, de ces cruelles anxiétés, elle avait écrit à son frère pour le conjurer de rendre à ses parents la petite pension qu'il leur avait servie jusque-là. Elle lui peignait avec toute l'éloquence de la vérité le dénuement et l'abandon auxquels ils en étaient réduits. Hélas, la pauvre femme ignorait tout ce que la réalité avait encore d'amer et de navrant. Joss n'avait pas cessé d'envoyer exactement la même somme à ses parents, mais elle allait désormais se perdre entre les mains d'un usurier de la cité. Le vieux Sedley avait vendu ses droits à cette rente pour se procurer un petit capital et se livrer à de nouvelles entreprises chimériques. Amy calcula avec une poignante douleur le temps qui allait s'écouler avant qu'elle reçût une réponse. Quant au bon major qui se trouvait alors à Madras, elle ne lui faisait point part de ses chagrins et de ses soucis. Elle ne lui avait plus écrit depuis la lettre où elle le félicitait sur son prochain mariage. Mais du moins elle pensait avec un sentiment de désespoir que le seul ami qu'elle avait toujours trouvé fidèle et dévoué se trouvait précisément loin d'elle à l'heure de la détresse. Un jour enfin, où l'horizon paraissait plus menaçant encore, où les créanciers se montraient plus pressants que jamais, où sa mère se livrait aux boutades de son humeur revêche, où son père paraissait plus triste et plus sombre qu'à l'ordinaire, où chacun des habitants de la maison se fuyait et s'évitait, comme pour se soustraire à la triste et douloureuse réalité, le père et la fille se trouvèrent seuls un moment. Amélia espéra ranimer le courage de son père en lui parlant de la lettre qu'elle avait écrite à Joss, de la réponse qu'elle attendait d'ici à 3 ou 4 mois. Malgré son insouciance, Joss avait le cœur bon et ne se sentirait pas la force de lui refuser quand il saurait dans quelle déplorable situation se trouvait sa famille. Alors le malheureux vieillard avoua à sa fille toute la vérité. La rente n'avait pas cessé d'être payée par son fils, mais il avait eu l'imprudence de l'aliéner. Le cœur lui avait manqué pour annoncer plus tôt cette nouvelle à Amélia. En voyant à cet aveu la figure consternée de sa fille, le pauvre vieillard pensa qu'il devait y voir un reproche sur sa dissimulation trop prolongée. « Hélas, lui dit-il, d'une voix suppliante et les yeux attachés au sol, vous n'aimerez plus maintenant votre vieux père. »« Oh, mon père !» s'écria Amélia en lui passant les bras autour du cou et en le couvrant de ses baisers. « Oh, mon père, une pareille pensée a-t-elle pu se présenter à votre esprit? Je ne puis avoir devant les yeux que votre bonté et votre tendresse. Et si vous avez agi de la sorte, c'était sans doute pour notre plus grand bien. Ah, si je vous en parle, ce n'est pas à cause de l'argent, mais c'est... mon Dieu, ayez pitié de moi, et donnez-moi la force de supporter cette épreuve. » Puis, au milieu de ses sanglots, elle couvrit son père de baisers et finit par sortir de la pièce. Son père n'entendit rien à ces paroles vagues et incohérentes, à cette explosion de douleur, à cette brusque sortie. Elle se résignait, elle acceptait son arrêt. L'enfant allait la quitter pour passer en d'autres mains, ou peut-être il ne serait pas longtemps avant de l'avoir oubliée. L'objet de son amour, son cher trésor, sa joie, son espérance, sa vie, son orgueil, son idole, elle allait perdre tout cela. Et alors elle n'aurait plus qu'à rejoindre Georges dans le ciel, et de là à veiller avec lui sur cet enfant et attendre le jour où ils se réuniraient à eux. Tout hors d'elle-même, et sans presque savoir ce qu'elle faisait, Amélia mit son chapeau et partit au-devant de Georges par la route qu'il suivait d'habitude pour revenir de l'école et où sa mère allait souvent à sa rencontre. C'était un jour de demi-congé. On était alors au mois de mai. Le ciel était pur et transparent. L'enfant, dès qu'il aperçut sa mère, courut au-devant d'elle pour l'embrasser. Un air de santé et de joie était répandu sur sa figure. Son paquet de livres pendait à son côté, retenu par une courroie. En un clin d'œil, il fut suspendu à son cou, la serrant étroitement dans ses bras. Oh, alors elle sentit toute sa résolution faiblir. Quel cœur assez barbare aurait pu songer à séparer ces deux êtres. « Qu'avez-vous donc, ma mère ? » lui demanda-t-il. « Vous êtes toute pâle. » « Ce n'est rien, mon enfant, » répondit-elle en l'embrassant. Ce soir-là, Amélia fit lire à haute voix, par son fils, l'histoire de Samuel que sa mère Anne porta au grand prêtre Élie pour qu'il fût consacré au Seigneur. Il lut aussi le cantique d'action de grâce qu'Anne chanta dans le temple en l'honneur de celui qui fait les riches et les pauvres, qui exalte ou qui humilie, où Dieu promet au malheureux de le tirer de son abaissement et menace le riche dans sa puissance. Il lut ensuite le chapitre où l'on voit la mère de Samuel faisant un vêtement pour son fils et le lui apportant chaque année au temple en venant sacrifier. Et la mère de Georges, laissant passer son cœur, fit à Georges, avec ses naïves inspirations, le commentaire de cette touchante histoire. Anne aimait tendrement son fils, mais fidèle au vœu qu'elle avait fait, elle le consacra au Seigneur, et certes, elle ne l'oubliait pas, puisque dans sa retraite, elle lui filait une tunique de laine. Et Samuel non plus n'oubliait pas sa mère, et celle-ci fut bien heureuse lorsqu'au bout de quelques années, et les années passent rapidement, elle put se retrouver avec son fils, grandi en sagesse et en vertu. Amélia adressa à l'enfant cette petite instruction d'une voix douce et solennelle, et parvint assez longtemps à réprimer ses larmes. Mais lorsqu'elle en fut venue à parler de leur réunion, alors elle éclata en sanglots, alors la douleur l'étouffa, alors elle serra l'enfant contre son sein, l'entourant de ses bras et versant sur lui de saintes et précieuses larmes. Désormais, sa résolution était arrêtée. Elle prit en conséquence les dispositions nécessaires pour l'exécuter. Miss Osborne recevait à quelques jours de là une lettre d'Amélia. Il y avait bien longtemps que cette adresse ne s'était trouvée sous la plume d'Amélia, et en traçant ce nom, elle se rappelait sa jeunesse, ses amours, son bonheur évanoui. Miss Osborne rougit beaucoup et regarda son père, qui, dans son fauteuil à l'autre extrémité de la table, était plongé dans une morne tristesse. Amélia lui exposait avec simplicité les motifs qui l'avaient déterminée à changer de résolution à l'égard de son fils. De nouveaux malheurs étaient venus fondre sur son père et avaient achevé sa ruine. Ses propres ressources étaient si modestes qu'elles suffisaient à peine pour soutenir ses parents et par suite étaient loin de procurer au petit Georges les avantages d'éducation auxquels il pouvait prétendre. Malgré ce qui lui en coûtait à se séparer de lui, elle s'y résignait cependant, avec l'aide de Dieu et pour le bien de son fils. Elle savait d'ailleurs que les personnes auxquelles elle allait le confier ne négligeraient rien pour son bonheur. Puis puis elle dépeignait son caractère tel qu'elle le voyait avec ses yeux de mère. C'était, disait-elle, une nature ardente, toujours prête à se révolter contre la sévérité et la contradiction, et facile à conduire par la douceur et la bonté. Enfin, elle demandait en post-scriptum qu'on lui assurât par lettre la possibilité de voir son fils aussi souvent qu'elle le désirait. C'était la seule condition à laquelle elle consentirait à se séparer de son fils. « Elle courbe donc enfin la tête, madame l'orgueilleuse, » dit le vieil Osborne, quand sa fille, d'une voix tremblante, eut achevé la lecture de cette lettre. « C'est évident, elle crève de faim. Eh, mon Dieu, j'étais bien sûr qu'elle finirait par là. » Afin de ne rien perdre de sa dignité dans la joie du triomphe, il prit son journal suivant son habitude, mais sans rien lire de ce qu'il avait devant les yeux. Il grommelait et jurait en lui-même. Enfin, il jeta cette feuille de côté, et, fronçant le sourcil, il entra dans son cabinet, d'où il revint au bout d'un instant, et jetant alors à Miss Osborne une clé qu'il venait de prendre, « Allons, vite, préparez, lui dit-il, la chambre qui est au-dessus de la mienne. » « Oui, monsieur, répondit-elle, toute tremblante. » C'était la chambre de Georges qu'on n'avait pas ouverte depuis 10 ans. On y trouva encore les papiers, les habits, les mouchoirs, les cravaches, tout l'attirail de pêche et de chasse de celui qu'il avait précédemment occupé. Un manuel de la manœuvre des troupes était sur la table, avec le nom de Georges sur la couverture. Il y avait aussi un petit dictionnaire dont il se servait pour écrire. Une Bible que sa mère lui avait donnée, tout cela pêle-mêle avec une paire d'éperons et un encrier desséché et couvert de la poussière de 10 années. Que de changements dans les personnes et dans les choses pendant ces 10 années qui venaient de s'écouler. On voyait encore un cahier de brouillon tout couvert des traces capricieuses de son écriture. Miss Osborne se sentit tout émue en entrant dans cette pièce, suivie des domestiques. Elle se laissa tomber, toute pâle et presque sans connaissance, sur le lit qui avait servi autrefois à Georges. « Cela va bien, mon doux seigneur, » disait à demi-voix la femme de charge. « Voilà le bon vieux temps qui revient. Ah, madame, ce pauvre petit chérubin va-t-y être bien ici ? Ce n'est pas, madame, qu'il n'y ait des gens à qui ça n'arrondira pas la figure. » En même temps, elle souleva l'espagnolette, ouvrit la fenêtre, et l'air du dehors entra à pleine bouffée dans la chambre. « Il faudra qu'on porte de l'argent à cette femme, » dit M. Osborne avant de sortir. « J'entends qu'elle ne manque de rien. Envoyez-lui d'abord 100 livres. Mais seulement qu'elle ne s'avise pas de mettre les pieds ici. Non, morbleu, je ne le voudrai pas pour tout l'argent qui se trouve à Londres. Cela dit, bien entendu, je vous charge de la tenir à l'abri du besoin et de veiller à ce que tout se passe pour le mieux. » Après ces courtes recommandations, M. Osborne laissa sa fille pour se rendre, suivant son habitude, dans la cité. Le soir de ce jour-là, Amelia, en embrassant son père, lui remit entre les mains un billet de 100 livres. « Tenez, voici de l'argent, mon cher père, » lui dit-elle. Puis, se tournant vers sa mère, qui grondait son fils, « Ah, ne soyez pas si dur avec Georgie, il ne doit plus rester bien longtemps avec nous. » Il lui fut impossible d'en dire davantage. Elle se retira en silence dans sa chambre. Fermant discrètement la porte sur cette âme accablée par le chagrin, qui cherche un refuge dans la prière. En présence de tant d'amour et de tant de douleur, le mieux est de laisser chacun à ses propres pensées. Le lendemain, Miss Osborne vint voir Amelia, comme elle lui avait annoncé dans sa réponse. Cette entrevue fut pleine d'effusion et de cordialité. Un regard et quelques mots de Miss Osborne suffirent pour prouver à la pauvre veuve que de ce côté, du moins, il n'y avait pas à craindre qu'on cherchât à la supplanter dans le cœur de son fils. Malgré sa froideur, Miss Osborne avait le cœur sensible et bon. Sa mère n'eût peut-être pas été aussi tranquille si elle avait vu sa place remplie par une rivale plus engageante, plus jeune, plus affectueuse, plus communicative. Miss Osborne, de son côté, en se reportant à ses souvenirs sur le passé, se sentait vivement émue de l'air morne et triste de cette pauvre mère qu'elle voyait ainsi courbée sous l'affliction. Les deux belles-sœurs arrêtèrent d'un commun accord les préliminaires du traité. Le lendemain, à son retour de l'école, Georges trouva sa tante à la maison. Amelia les laissa ensemble et se retira dans sa chambre. Elle voulut essayer ce que seraient pour elle les douleurs de la séparation, comme Jane Grey, qui, dit-on, passa le doigt sur le tranchant de la hache qui allait couper le fil de ses jours. Le temps s'écoula en pourparlers, en visites, en préparatifs. La pauvre veuve usa des plus grandes précautions pour instruire George du changement qui allait s'opérer dans sa manière de vivre. Elle pensait qu'en apprenant cette nouvelle, il allait se livrer à la désolation. Il eut plutôt l'air de s'en réjouir. La pauvre mère alla cacher ses douleurs dans sa chambre. Quant au bambin, il fit grand tapage auprès de ses camarades d'école de son élévation prochaine. Il leur annonça qu'il allait vivre avec son grand-père, le père de son père, non point celui qui venait le chercher quelquefois à sa pension, qu'il irait à une bien plus belle école. Enfin, quand il allait être riche, il se proposait d'acheter des boîtes de couleurs et des tartes aux pommes. Oui, cet enfant était bien tout le portrait de son père, comme se le disait sa mère dans sa tendresse, sans croire cependant juger aussi vrai. Par affection et par égard pour notre chère Amelia, nous ne ferons point l'histoire des derniers jours que George passa chez ses parents de Brompton. Il brilla enfin ce jour où un splendide équipage, s'arrêtant devant la modeste maison des Sedley, prit les paquets du petit George, au milieu desquels figuraient maints souvenirs de tendresse maternelle. Tout était déjà prêt depuis longtemps et attendait dans la cour. George portait des habits pour lesquels le tailleur était venu lui prendre mesure quelques jours auparavant. Il s'était levé avec l'aube pour revêtir ses beaux vêtements neufs et sa mère l'avait entendu de sa chambre à coucher. Pauvre femme! Elle avait pleuré toute la nuit dans le silence de l'insomnie. Les jours précédents, elle avait tout préparé elle-même pour ce pénible moment, avait acheté 1000 petits objets à l'usage de son fils, avait mis son nom sur ses livres et son linge. Enfin, elle s'était efforcée par ses paroles de lui adoucir cette séparation. Pauvre mère, elle tenait à se persuader que son enfant avait besoin d'être consolé au moment de la séparation. Quant à Georgie, il ne songeait qu'au plaisir du changement, peu lui importait le reste. Par 1000 petites remarques blessantes pour le cœur maternel, il montrait à la pauvre veuve combien peu il s'affligeait de la quitter. Il lui disait qu'il viendrait la voir sur son poney, qu'il la prendrait avec lui en voiture, qu'il la conduirait au parc et qu'elle ne manquerait plus de rien. Force fut bien à la pauvre Amelia de se contenter de ces démonstrations de tendresse où perçait surtout l'égoïsme. Elle tâcha d'y voir cependant le témoignage d'une vive affection de la part de son fils. Certainement, il l'aimait bien. Tous les enfants, d'ailleurs, en sont là. La nouveauté les entraîne. Ce n'était point de l'égoïsme de sa part, c'était tout au plus du caprice. Du reste, il était si naturel que son fils eût envie de goûter des joies et de l'orgueil du monde. Elle-même, par égoïsme, par une tendresse aveugle, ne l'avait-elle pas jusqu'ici privée des avantages et des jouissances auxquels il pouvait prétendre? C'est ainsi que la pauvre Amelia se préparait par une douleur silencieuse et contenue au départ de son enfant bien-aimé. Que de longues heures elle avait passées à tout mettre en ordre pour ce terrible moment. George la regardait faire comme s'il eût été étranger à tout cela. Des pleurs avaient coulé sur ses malles, des cornes avaient été faites à certains passages de ses livres. Ses vieux joujoux, ses souvenirs, ses trésors d'enfant avaient été empaquetés avec un soin tout particulier, et le bambin ne montrait que la plus complète indifférence. Il souriait, l'ingrat, tandis que sa mère avait le cœur brisé. Ah, c'est quelque chose de bien merveilleux et de presque divin que ces trésors inépuisables de tendresse qu'ont les mères pour leurs enfants. Encore quelques jours, et Amelia a consommé le sacrifice. Le Seigneur n'a point envoyé un ange pour arracher la victime à l'autel. L'enfant maintenant jouit des grandeurs de la fortune, tandis que la veuve n'a plus d'autre compagne que sa tristesse. Rassurez-vous cependant, l'enfant la visite souvent. Il vient la voir sur un poney et un domestique l'accompagne. Son grand-père est tout fier de le voir caracoler à côté de sa voiture. Amelia voit toujours George avec tendresse, mais il lui semble que ce n'est plus son fils comme autrefois. Quant à lui, il passe souvent à cheval devant la porte de son ancienne pension pour que ses camarades n'ignorent point l'opulence de sa nouvelle position. Au bout de 2 jours, il avait toute la morgue des gens à écus. Il est né pour commander, se disait sa mère, c'est l'image vivante de son père. Nous sommes maintenant dans la belle saison. Le soir, lorsqu'il ne vient pas voir sa mère, celle-ci se rend dans la cité. La longueur de la route ne l'effraie pas. Assise sur un banc qui fait face à la maison de M. Osborne, elle regarde à travers les grilles qui entourent le jardin. Cette place a pour elle un charme tout particulier. Elle peut voir de là les croisées du salon resplendissantes de lumière. Vers 9 heures, elle aperçoit de la lumière dans la chambre de Georges. Elle la connaît bien, il la lui a indiquée. Quand la lumière disparaît, alors Amelia se met en prière. Elle élève vers Dieu son âme humble et aimante. Puis elle rentre chez elle dans le silence et l'abattement. Ses longues courses la fatiguent beaucoup, mais peut-être en dormira-t-elle mieux, car alors elle pourra rêver à son petit Georgie. Un dimanche, elle s'était rendue, comme d'habitude, à Russell Square. Là, elle avait devant elle la maison de M. Osborne, et les cloches faisaient entendre dans les airs de joyeux carillons. Georges sortit avec sa tante pour aller à l'église. Un petit balayeur lui demanda l'aumône. Le laquais qui portait le livre de prière voulut repousser l'enfant. Mais Georges s'arrêta et lui donna une pièce d'argent. Dieu bénisse le petit Georgie. Amy fit le tour du square et, s'approchant du pauvre balayeur, lui donna aussi son denier. Puis elle se mit à suivre Miss Osborne et son fils jusqu'à l'hospice des enfants trouvés, où elle entra avec eux. Elle s'assit dans la chapelle à une place d'où elle pouvait apercevoir la tête de Georges au-dessous du monument funéraire de son mari. Plusieurs centaines d'enfants unissaient leurs voix fraîches et pures et chantaient les louanges du Tout-Puissant. Cet hymne de gloire et d'adoration faisait tressaillir d'une joie candide et douce l'âme du petit Georges. Sa mère fut quelque temps sans le voir, au milieu des larmes qui voilaient sa vue.